Donc, qu'est-ce qui va s'opposer à l'idéologie chez Marx? C'est la science. En l'occurrence, la doctrine de Marx. Donc, ce n'est que parce que vous êtes en possession d'une lecture adéquate de la réalité que vous allez pouvoir dénoncer l'idéologie par laquelle la classe dominante justifie sa domination. D'accord ? Donc ça veut dire que pour Marx, l'idéologie ne peut être critiquée que par une vision bien plus fondamentale de la réalité. Si vous voulez dévoiler quelque chose qui se cache, bah, il faut que vous soyez à un point de vue qui permet de voir le stratagème. Sinon, vous ne pouvez pas. Si vous êtes vous-même pris dans le processus, vous ne pouvez pas repérer l'idéologie. Donc Marx, il ne peut dénoncer l'idéologie que parce qu'il a mis au jour un mécanisme qu'il considère comme le seul capable de saisir la réalité, qu'il expose dans le Capital, qui est la détermination de la société à partir des conditionnements socio-économiques. Et que c'est à partir de cette réalité, qui est la vraie réalité de nature économique, que tous les discours moraux, juridiques, religieux, politiques, vont pouvoir être dénoncés comme des idéologies, comme une idéologie qui a pour objectif principal que les prolétaires acceptent bien gentiment la place qui est la leur dans la société, c'est-à-dire le fait d'être des prolétaires, et qu'ils acceptent comme tout à fait naturel et bon pour l'ordre social que certains dominent. Oui. Et donc, voyez bien ici, hein, ça c'est un point important, c'est que l'idéologie ne peut être dénoncée que si vous avez une prétention à découvrir une réalité en deçà de l'idéologie. Vous voyez ? Une idéologie, au sens de Marx, ça ne se dénonce pas à partir d'une autre idéologie. Donc il y a quelque chose d'englobant dans la critique de l'idéologie. Dans la vraie critique de l'idéologie. Et le point peut-être le plus important, hein, c'est bien la question de la justification, de la légitimation. L'idéologie, elle est vue comme un processus par lequel quelque chose d'arbitraire, de violent, est vu comme légitime, est présenté comme légitime, comme juste, comme bon. Et le meilleur moyen pour le grand critère de légitimité dans le monde humain, c'est évidemment ce qui relève de la nature, c'est-à-dire ce qui relève non pas de la liberté des individus, liberté des individus qui peut apparaître comme capricieuse, comme intéressée. Ce qui ne dépend pas de la liberté des individus, c'est ce qui passe pour étant la nature, qui est antérieure à la liberté, vous rappelez le texte d'Aristote. Et du coup, dans cette optique, le grand réservoir dans lequel les idéologies vont puiser leur justification, c'est un ordre naturel. Le meilleur exemple dans cette optique, c'est le texte de Portalis ce matin. De dire l'ordre social, hein, le système de la famille patriarcale, c'est pas du tout une invention des hommes. C'est dans l'ordre de la nature, c'est comme ça, on n'y peut rien. Bah, de fait, voilà, la nature est faite de cette manière. Donc c'est normal que la nature, que la société donne plus de pouvoir à l'homme comme chef de famille qu'à la femme, c'est la nature qui l'a décidé, c'est pas l'être humain. Et donc, vous voyez que dans ce processus ici, en fait, ce qui est contesté par Marx, c'est en fait l'autorité. Toute autorité, et on étudiera demain un texte de Pierre Bourdieu, qui est un sociologue contemporain qui reprend en partie la doctrine de Marx, toute autorité qui apparaît comme légitime est en fait une imposture. Cette autorité est en fait le voile d'un rapport de force. Et dans la conception de Marx, finalement, la société est rapport de force. Sauf que l'idéologie est là pour justement empêcher d'identifier les rapports de force. Et d'où l'importance, alors là, dernier point sur Marx pour faire comprendre tout ça, le travail le plus important, c'est quoi ? C'est de prendre conscience de l'idéologie. Le travail le plus important, c'est la conscientisation que je suis soumis à une idéologie qui me fait accepter la place que j'ai. Et donc le rôle de la science pour Marx, c'est un, de décrypter le mécanisme idéologique, et deux, de répandre la conscience de l'aliénation. L'aliénation, ça veut dire d'être étranger à soi-même. Donc il s'agit de faire prendre conscience aux dominés qu'ils sont injustement dominés. Et comment vous arrivez à faire prendre conscience que les dominés sont injustement dominés? En leur faisant comprendre que leur domination n'est pas du tout le fruit du destin, n'est pas du tout inscrit dans l'ordre naturel de la société, mais que c'est simplement le résultat d'un rapport de force qui a été comme sacralisé, tiens, on retrouve le mot, qui a été comme sacralisé dans l'intérêt des dominants. Mais que si vous grattez ça, si vous déchirez le voile, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a des rapports de force. Et que s'il y a des rapports de force, les rapports de force, eux, ils peuvent être inversés. Et que ce n'est pas du tout sacré. Ce qui apparaît comme sacré, intouchable, un ordre naturel des choses, c'est le fruit d'une sacralisation, c'est-à-dire d'une opération qui soustrait au monde profane un aspect pour dire « Ah, on ne touche plus, c'est sacré ». Et l'autre va dire, mais vous voyez, hein, opposition, sacralisation, profanation. Le meilleur moyen de profaner quelque chose de sacré, c'est de dire, mais ça, c'est pas sacré, ça a été sacralisé. Vous voyez ? Quand vous montrez comment une chose a été sacralisée, qu'est-ce que vous faites ? Vous la profanez. Parce que vous montrez que la chose n'est pas séparée par elle-même, elle a été séparée du reste. Elle a été mise de côté. Dans quel but? Si c'est une activité sacralisée, c'est que c'est des êtres humains qui ont dit « Tiens, ça, on n'y touche plus. » À qui profite l'opération? Ça profite à ceux qui ont justement intérêt à ce qu'on ne conteste pas leur autorité, à ce que l'on ne conteste pas l'ordre social. Et le meilleur moyen, encore une fois, de ne pas contester l'ordre social, c'est de dire l'ordre social, il est fondé sur la nature. Et la nature, ça ne dépend pas de l'homme. On n'y peut rien. C'est comme ça. Oui. Et donc, dans la perspective de Marx, et qui va être au cœur de la théorie du genre, il s'agit de conscientiser. C'est pour ça qu'ici, la conscientisation, elle va apparaître comme un décryptage, comme une contestation de ce qui, dès lors, va apparaître comme une idéologie. L'hétérosexisme. L'hétérosexisme, voilà l'idéologie qu'il s'agit de déceler dans la mentalité des individus, aussi bien dans la mentalité des homosexuels, par exemple, ou de tous les déviants, de tous ceux qui sont vus comme des déviants et qui n'arrêtent pas de se considérer comme des déviants et des malades. Il s'agit qu'ils arrêtent de s'autoflageller et qu'ils retrouvent leur dignité, c'est-à-dire en niant le stigmate qui leur a été, qui a été imprimé sur eux, mais aussi de conscientiser tous ceux qui, j'allais dire, sont du bon côté de la barrière et qui légitiment un ordre social, inconsciemment, qui opprime une minorité. Et donc, l'objet de la dénonciation de l'hétérosexisme, c'est pas simplement de rendre une certaine dignité à tous les déviants et autres cas pathologiques, mais c'est aussi de faire prendre conscience à tous ceux qui se croient hétérosexuels que ce qui leur apparaît comme normal et naturel est aussi le fruit d'une convention et que finalement, ce qu'ils vivent n'est pas si naturel que ça.